Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Samuel Bernard et Mélanie Chalandon, mais aussi Marguerite Caton et Maëlys André, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Clément Daté. Et comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du monde. Bonjour Marc Semo.
Bonjour.
Alors cette semaine, les dirigeants européens se sont réunis à Salzbourg pour un sommet informel au menu le Brexit. À quelques semaines de la fin des négociations visant à définir les modalités de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, Theresa May a enjoint ses partenaires à faire évoluer leur position, mais ses partenaires lui ont clairement mis la pression en lui faisant savoir que la proposition actuelle n'était pas acceptable. Quelques jours plus tôt, c'est devant son propre camp politique qu'elle a essayé de défendre son plan qu'elle présente désormais comme le seul possible. Je crois que l'alternative, c'est ne pas avoir d'accord. La Première ministre britannique pourra-t-elle imposer sa propre vision du Brexit? Le pourra-t-elle auprès de l'Union européenne? Mais le pourra-t-elle aussi auprès du Parti conservateur avec qui les tensions sont de plus en plus vives? Et d'ailleurs, à quoi ressemble ce plan? Quels sont les points d'achoppement qui continuent de poser problème? There is no alternative, le Brexit selon Theresa May. Voilà notre sujet ce matin. Pauline Schnapper et Emmanuel Saunier-Cassia sont déjà avec nous pour en parler. Bonjour à l'une et à l'autre.
Bonjour.
Merci
bonjour.
D'être avec nous. D'abord, place à notre retour d'eux en partenariat avec l'association des Prix Albert Londres. La journaliste qu'on reçoit ce matin nous revient du Nicaragua. Bonjour Claire Ménial.
Bonjour Florian.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes donc journaliste, on vous reçoit pour une série de documentaires parus dans Le Point et encore à paraître. Mm-hmm. J'indique également que vous êtes prix Albert Londres 2016. Depuis avril dernier, le pays connaît des manifestations régulières. La riposte policière au Nicaragua a été extrêmement brutale. Elle a causé la mort de plus de 300 morts. Alors ça dépend des bilans qu'on regarde. On parle aussi jusqu'à 450 morts en 3 mois. Le président Daniel Ortega, ancien héros de la révolution sandiniste, celui-là même qui avait renversé la dictature en 79, tient le pays depuis 11 ans maintenant. Il avait déjà fait un premier passage dans les années 80. Et visiblement, il ne compte pas lâcher le pouvoir. Peut-être on va commencer par une sorte d'état des lieux. Vous êtes resté une quinzaine de jours sur place et vous y avez trouvé un pays particulièrement exsangue. Il y a évidemment la crise politique, mais il y a, semble-t-il maintenant, aussi la crise économique, sociale, peut-être alimentaire aussi à venir. Vous expliquez que l'inflation est extrêmement forte, autour de 6%, que les prix ont considérablement flambé, le riz, les haricots, etc., etc. Il devient de plus en plus difficile pour un certain nombre de personnes de trouver des denrées, de manger par exemple de la viande. Est-ce que le Nicaragua est en train de prendre le chemin du Venezuela qui, on le sait, est plongé dans une crise politique, mais aussi sociale, économique et même alimentaire depuis des mois?
Alors, l'énorme différence entre les deux pays, c'est d'abord évidemment une différence de taille de population. Le Nicaragua est un tout petit pays. Et par ailleurs, le Nicaragua produit, c'est le grenier de la région. La maison dans laquelle j'étais, moi, il y avait des mangues et des avocats dans le jardin. Le Venezuela ne produit plus rien, puisque depuis les années 2000, Hugo Chavez a exproprié absolument tous les patrons, redistribué beaucoup des entités productives à des militaires. Donc il y a une raison simple pour laquelle le Venezuela ne mange pas pour l'instant, c'est qu'ils ne produisent plus rien, qu'ils n'ont plus de devises pour acheter, puisqu'ils ne produisent plus de pétrole non plus.
C'est pas le cas du Nicaragua.
Au Nicaragua, on n'a absolument pas ce problème, puisque le Nicaragua, d'ailleurs, fournissait de la nourriture au Venezuela. C'était le deal pétrole contre nourriture. En revanche, c'est vrai qu'en 5 mois de crise, ils sont passés d'une croissance de plus de 10% à probablement, selon José Adanaguerri, qui est le président de la COSEP, donc le syndicat des entreprises privées, à une décroissance de 2% probablement, qui sera leur première crise de décroissance depuis 2009. Le pays a perdu 200 000 emplois, 80 000 rien que dans le tourisme, qui avait vraiment décollé. 80% des petits hôtels ont fermé, 35% des restaurants, donc on parle vraiment d'une crise massive. L'autre chose, c'est qu'il y a énormément d'émigration, puisque les jeunes se sentent menacés, et cette émigration lèse en premier lieu l'agriculture, beaucoup de main-d'œuvre agricole qui part, or c'était vraiment le poumon de l'économie du pays.
Il y a quand même un secteur de l'économie qui se porte très bien, et c'est malheureux, c'est les transports. Les gens s'en vont.
Tout le monde s'en va. Alors, beaucoup pour le Costa Rica. Et en effet, c'est à la fois pour des raisons économiques et politiques. C'est-à-dire, vous avez ceux qui s'en vont parce qu'ils ont manifesté une fois, parce qu'ils sentent l'angoisse monter, étant donné qu'il y a des camionnettes tout le temps, des Hilux, des 4x4 avec des types cagoulés en Kalachnikov qui font les tours des quartiers et qui embarquent. Et puis, il y a ceux qui n'ont plus de travail.
Et vous en avez rencontré beaucoup dans ce cas-là. David, avec deux de ses compagnons qui sont sur un trottoir et qui vous expliquent qu'ils vont partir. Vous avez rencontré
secteur agricole, cela.
Une jeune femme aussi, Tania, qui vous a le bac pour vous vendre précisément des billets. Une autre, Iris, qui se retrouve aussi à vendre des billets de bus. Vous dites que les gens s'en vont du côté du Costa Rica, pardon. Comment est-ce que le Costa Rica parvient à gérer cet afflux de migrants? Est-ce qu'il y a des politiques d'accueil qui sont mises en place?
Précisément, ça devient très compliqué. Alors, historiquement, il y a une immigration nicaraguayenne présente au Costa Rica, légalement ou pas. Donc, le Costa Rica a commencé par légaliser ces migrants nicaraguayens qui étaient là. Mais il a commencé à avoir des problèmes de xénophobie. Sachant que ces pays sont quand même pas vraiment armés pour recevoir de tels flux de migrants.
Votre impression sur la nature de cette crise, est-ce qu'on est dans quelque chose qui ressemble à une guerre civile avec deux camps qui se feraient face, ou est-ce qu'on est dans quelque chose qui ressemble plutôt à une révolution populaire avec une très large majorité de la société qui chercherait à faire tomber un gouvernement? C'est quoi cette crise?
Alors, en fait, j'ai envie de vous répondre un petit peu des deux. À force de passer des pactes avec tout le monde, y compris avec le président Alemán en 98, qui était le président le plus corrompu que le Nicaragua ait jamais connu, et Daniel Ortega passe un pacte avec lui permettant de baisser le seuil du niveau du taux de vote au premier tour pour les candidats à la présidentielle, ce qui lui permet enfin de passer, lui qui perd à toutes les présidentielles depuis 89. Donc quand il gagne en 2006, il gagne avec 38%, ce qui est un score inférieur au score avec lequel il a gagné en 84, qui était 42%. En 89, pardon, avec 42%. Donc il gagne avec un score inférieur à celui qu'il avait fait perdre en 89. Et en fait, ce que me disaient certains historiens, c'était le sandinisme atteint son plafond à ce moment-là, à peu près 38%. C'est encore une bonne moitié, une petite moitié, on va dire, du pays. Parce que il reste l'image de la révolution sandiniste. Il faut quand même se représenter ce qu'était la dictature des Somoza. Hein. C'est une dictature qui est là depuis 37, qui est extrêmement violente, qui réprime, qui torture. Ortega lui-même a été victime de torture sous Somoza. Donc ça représente quelque chose. C'est 50 000 morts dans la révolution sandiniste, 30 000 dans la guerre contre les contras. Il y a ça qui reste. Mais cet amour de la base pour l'image du révolutionnaire, elle s'est considérablement effritée depuis qu'ils sont mis à massacrer les gens dans la rue.
Même si elle est encore là. Il y a par exemple une jeune fille qui vous dit « Moi, j'ai ma grand-mère qui est une sandiniste à la vie, à la mort. » Donc le soutien populaire, il reste là.
Encore.
Peut-être en particulier chez les plus anciens, d'ailleurs.
Chez les plus anciens et chez les plus pauvres qui ont reçu, pour certains, qui ont bénéficié de programmes sociaux. Il y a eu des programmes Cero Hambre, où il y avait des distributions de... Donc zéro faim, des distributions de volailles, de mammifères. Il y a eu des programmes de logement qui se sont finalement pas mal réduits, à des distributions de toits en zinc finalement, puisque l'argent qui devait servir à ces programmes passait largement dans les poches du clan Ortega lui-même, vénézuélien.
Ouais. Si on revient sur le début de la crise, qui a mis le feu aux poudres, c'est une réforme des retraites. Et pourtant, Daniel Ortega a fini par reculer sur cette réforme des retraites. Alors, comment expliquer que les manifestations se sont poursuivies? Au fond, j'aimerais comprendre ce qui s'est passé, cet emballement qu'il y a eu, alors même que Ortega a fait marche arrière. Pourquoi est-ce que ça a continué? Pourquoi est-ce que ça a explosé?
En fait, effectivement, le 18 avril, il annonce cette réforme de l'INS, donc qui va léser les retraités. Depuis 4 jours, à ce moment-là, il y a un énorme incendie dans une réserve naturelle qui s'appelle la réserve Indio Maíz. Et le Costa Rica a proposé de l'aide, les États-Unis aussi, etc. Daniel Ortega a refusé. Ce qu'il faut savoir, le sous-texte de cette histoire, c'est que cet endroit toucherait l'endroit du passage du canal magistral que veut construire Ortega. Il y a des réserves naturelles, il y a des populations indigènes qui vivent là et qui s'opposent à la construction de canal. Si tout est brûlé, le statut de réserve naturelle tombe et ça permet de construire. Donc les jeunes, qui sont pas complètement idiots, lisent ça de cette façon-là. Ils sont absolument furieux. Ils sont furieux que l'aide internationale soit refusée, parce qu'en plus ils sont très écolos, comme m'expliquent les leaders étudiants. Sur ce, il annonce cette réforme de l'INS. Et pareil, on est dans un pays d'Amérique centrale où la notion de famille est quelque chose de très important. Et donc ils sont furieux. La première manif qui s'organise le 18, elle est vraiment finalement uniquement pour le retrait de cette réforme, l'Estelle Alemán, qui est ce jeune étudiant qui était leader des manifs, m'a dit, mais alors on n'a pas pensé une seconde qu'on allait défiler pour la chute du régime. Enfin, personne n'envisageait ça jusqu'à présent. Toutes les manifs avaient toujours été réprimées, elles n'avaient jamais duré. Tous les syndicats étudiants étaient achetés de toute façon. Et donc, mais le 19, tombe le premier mort. Il réprime tellement fort que là, il y a un mort. Et alors là, les étudiants se disent, mais qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'était vraiment pas du tout prévu. Ça n'arrive pas. Et jour après jour, la violence augmente. On a le 21, un journaliste en pleine retransmission, il fait un Facebook Live. En fait, il est tué en direct, il prend une balle dans la tête. Enfin, et là, les Ivoiriens se disent, mais en fait, c'est pas juste un pouvoir ultralibéral autoritaire. En fait, c'est une dictature. Et donc, quand Ortega propose de retirer sa réforme, ils disent, non mais là, t'as pas compris, c'est plus du tout le problème. En fait, c'est toi qu'on veut retirer, c'est plus un problème de réforme.
Oui, il y a aussi le cas de ce jeune homme, tout jeune homme, 15 ans, junior, dont vous avez rencontré, je crois, les parents, qui
Amasaya.
Est abattu à Masaya, qui était vraiment l'épicentre de la contestation, qui est je sais même pas comment qualifier. C'est une exécution quasiment.
C'est une exécution. Ouais. Alors en plus, c'est là où on se rend compte de la manipulation du pouvoir. En fait, Junior avait donc même pas 15 ans. Il les aurait eu le 24 juillet et le 2 juin, il est allé combattre parce qu'il y a eu vraiment des barricades dans un rapport de force complètement inégal, puisque vous avez d'un côté les milices, il faut bien appeler ça comme ça, du gouvernement qui sont armés, très bien armés de Kalachnikov, de l'autre côté des gamins avec des mortiers bricolés. Et lui va se battre et il est abattu par celui qui était son coach de basket de l'équipe de basket des jeunes. Le gars, pour la circonstance, a enlevé sa cagoule pour que le petit le reconnaisse. Il lui dit, tout le monde répète cette phrase, no me mates, por favor, me conoces, ne me tue pas, tu me connais, ne me tue pas. Et l'autre lui tire une balle en pleine poitrine. Donc oui, les gens à Masaya ont été extrêmement choqués, d'autant que Masaya était un bastion sandiniste au départ. C'était un symbole, puisque c'est là où était tombé notamment Camilo Ortega, le frère de Daniel Ortega, en 78, se battant contre la dictature. Donc, c'est quand même un symbole assez fort.
Alors, dans un premier temps, la police et l'armée se contentent, j'allais dire, je mets des guillemets, parce que quand on entend ce récit, on voit bien que c'est une immense violence, mais en tout cas, on se contente de se battre dans les rues, sur les barricades. Mais aujourd'hui, on est passé à une nouvelle étape. Il y a des rafles carrément dans les maisons. Il y a un jeune homme, par exemple, qui veut rester anonyme, qui vous raconte que les conseils pouvoir citoyen, qui sont des organisations sandinistes de quartier, ont des listes à partir desquelles ils arrêtent aujourd'hui et ils enferment les gens.
Ils enferment les gens. Donc il y a un rapport de l'ONU là qui est tombé le 30 août, disant qu'ils sont extrêmement préoccupés par les disparitions, les tortures. Il y a énormément de tortures qui sont rapportées. Et surtout, c'est...
Parce que des personnes sortent ?
Des personnes sortent. Ouais, certains sortent. Mais certains ont disparu, ils ont été enlevés. Puisque finalement, ce que me disait Wilma Núñez, qui est donc à la tête d'une organisation de droits de l'homme, vous êtes enlevé par des types cagoulés en Kalachnikov. Comment on qualifie ça? Est-ce qu'on dit que vous êtes arrêté? Est-ce qu'on dit simplement que vous êtes kidnappé? Il s'agit d'arrestations qui sont faites absolument sans mandat. On ne sait pas où les gens sont emmenés. Ils n'ont jamais le droit de voir un avocat, jamais le droit de voir un juge. Il s'agit tout simplement de kidnapping.
Claire Ménial, pour comprendre cette crise, il faut aussi introduire un autre personnage, Rosario Murillo, l'épouse d'Ortega. Elle est vue comme une femme excentrique, c'est un euphémisme, voire totalement folle. On la traite de sorcière beaucoup au Nicaragua. C'est une poétesse, un peu sujette au délire mystico-religieux. Or, visiblement, c'est une femme qui a beaucoup de pouvoir. D'abord, il faut rappeler qu'elle a été nommée vice-présidente du pays en 2016. Et on dit qu'en réalité, c'est elle qui tient les rênes du pouvoir. Alors, qu'en est-il réellement? Et racontez-nous aussi peut-être, vous parliez de pacte tout à l'heure, là aussi il y a un autre pacte qui peut-être explique la raison pour laquelle elle a aujourd'hui beaucoup.
Alors, Rosario Murillo, ils se connaissent depuis tout petit puisqu'ils étaient voisins, mais ils se sont retrouvés en exil. Daniel Ortega sortait de prison, elle, comme elle était en effet devenue donc poétesse révolutionnaire, elle était exilée. Ils se sont rencontrés, ça ne s'invente pas, au musée de la maison Simón Bolívar à Caracas. Donc c'est tout un symbole, je ne sais pas si c'est vrai, mais enfin, en tout cas, la légende dit ça. Et Elle était dans l'ombre pendant très longtemps. Elle était à la tête de l'association des travailleurs de la culture sandiniste. Il voulait absolument pas l'épouser, comme me disait Sofía Montenegro, qui est une sociologue, écrivain, une ancienne guérilla. Elle me disait, c'est comme Fidel Castro, les grands hommes ont pas de femme. Daniel Ortega, elle était mariée avec le Nicaragua. Et donc, elle a été dans l'ombre très longtemps, probablement très frustrée d'être dans l'ombre. Elle est tombée en dépression en 89 quand ils ont perdu l'élection présidentielle. Et qu'ils ont accepté de rendre le pouvoir à Violeta Chamorro, qui était la candidate libérale. Et en 98, coup de tonnerre, la fille de Rosario, qui s'appelle Soy la América, sa fille aînée, que Rosario a eue avec un autre homme, mais qui a finalement été adoptée par Diana Ortega, elle publie une lettre ouverte à son beau-père, expliquant qu'il la viole depuis qu'elle a 11 ans. Elle a 31 ans à ce moment-là, elle vient de se marier, elle veut avoir des enfants, elle n'en peut plus qu'il continue à la harceler, et ça sort d'un coup. C'est un coup de tonnerre, évidemment, puisque le FSLN, le parti sandiniste, est censé être le parti qui aide les plus faibles, les pauvres, qui est un parti féministe, soi-disant. Enfin, il y a eu beaucoup de combattantes féministes qui ont commandé à beaucoup d'hommes, je pense à Dora Maria Tellez, qui a commandé à 3500 sans hommes. Mais le parti choisit de se ranger du côté du comandante parce qu'il représente la révolution, n'est-ce
pas ? Le parti et sa femme aussi.
Et sa femme, bien entendu. Et donc Rosario en profite, vraiment, on ne peut pas appeler ça comme ça. Ils font une conférence de presse où Daniel, comme on l'appelle, est mutique, il se tait, il est livide, et elle parle en disant « j'ai honte, ma fille est une mythomane, elle était secrètement amoureuse de lui, c'est une ambitieuse, etc. » Et dès lors, elle obtient absolument tout ce qu'elle voulait depuis toujours et qu'il lui avait jamais donné, c'est-à-dire qu'elle obtient le mariage et la moitié du pouvoir. Aujourd'hui, elle maîtrise toute la communication du pays, toutes les demandes d'interview passent par elle, elle n'en donne pas, mais enfin, elle répartit éventuellement d'autres gens à qui vous pouvez parler, éventuellement. Le pays est tapissé d'affiches fuchsia, parce que c'est sa couleur favorite. On les voit tous les deux vieillissant. Enfin, elle est effectivement habillée de façon complètement étrange et excentrique. Et il y a quand même un symbole, c'est que tout est écrit de son écriture avec des ronds sur l'œil. N'importe qui sait quelle est son écriture. Elle est omniprésente.
Claménial, pour bien comprendre cette crise, il faut aussi introduire donc ce pays dont on a un tout petit peu parlé au début, c'est le Venezuela. Rappelons qu'au début du mois d'août, le président vénézuélien Nicolas Maduro fait l'objet et la cible d'un attentat au drone explosif, un attentat qui va finalement auquel il va réchapper. Mais dès le lendemain, au Nicaragua, il y a des manifestations de soutien au Venezuela. Alors, quel est le message à ce moment-là qu'on lance, et surtout comment comprendre la nature exacte des liens entre le Nicaragua et le Venezuela?
Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que ces manifestations, elles sont organisées par le pouvoir sandiniste. Hein. C'est-à-dire, vous avez des gens qui sont amenés en bus au rond-point Hugo Chavez, sous un buste énorme de Hugo Chavez, et des arbres de la vie qui sont des structures qui ont été plantées par un Rosario Mourinho, des trucs pastels dans son délire. Et les fonctionnaires, s'ils ne vont pas à ces manifestations, perdent leur travail. Donc déjà, ça vous donne un petit peu le contexte. Mais les gens qui sont à l'avant, en général, près de la scène et qui écoutent les chansons, là, vous trouvez des sandinistes assez motivés. En fait, c'est pas extrêmement étonnant. Le Nicaragua et le Venezuela appartiennent tous deux au Forum de São Paulo, Foro São Paulo, qui a été fondé en 1990, par Fidel Castro et Lula da Silva, à l'époque, après la chute du mur, après la fin de la guerre froide. C'est un moyen de continuer à répandre des idées anti-impérialistes et un bloc en Amérique latine. Donc dans ce petit groupe, vous trouvez le Nicaragua, le Venezuela, Cuba éventuellement, évidemment, le Brésil, la Bolivie. En réalité, ce sont des partis au départ, 115 partis et mouvements de gauche d'Amérique latine qui ont tous peu à peu accédé au pouvoir.
Mais il n'y a pas que de la politique, il y a aussi de l'économie, parce que le Nicaragua est lié avec le Venezuela par 98, un contrat pétrolier.
En 98, Hugo Chavez accède au pouvoir et effectivement c'est le Père Noël pour tous ces pays, parce qu'il a des accords avec chacun de ces pays, il leur donne on peut appeler ça du don, du pétrole que eux peuvent revendre, injecter dans dans leur économie, souvent complètement hors budget. Dans le cas du Nicaragua, ça représente 500 millions de dollars par an, ce qui est énorme pour un petit pays comme ça. Et c'est une influence politique pour le Venezuela, évidemment, pour ce bloc de gauche. En juillet, ils ont eu une session extraordinaire à La Havane, où ils ont émis un communiqué de soutien d'abord à Lula, qui va pas pouvoir se présenter finalement au Brésil, et un deuxième communiqué au camarade Ortega, qui est en proie à la violence des milices d'extrême droite payées par la CIA, c'est-à-dire la vieille rhétorique anti-gringo, comme on dit, de cette partie de l'Amérique latine.
Est-ce que le régime va s'effondrer ?
Ils n'ont pas de pétrole comme Maduro, et ça peut pas durer éternellement, il faut les payer les milices, mais ça peut durer.
Merci beaucoup, Claire Ménial, d'être passée dans notre studio. Je rappelle que vous êtes journaliste et qu'on vous recevait pour une série de documentaires dans Le Point. Il y a d'ailleurs un nouveau documentaire, reportage, qui sera publié la semaine prochaine, jeudi prochain. Merci infiniment. Et je rappelle que vous êtes également prix Albert Londres 2016, puisqu'on est en partenariat avec l'association des prix Albert Londres. Merci beaucoup.
Dime si ya desapareció la belleza natural de las islas que ayer vi brillar. Mancarrón, fuiste isla ayer de paz, quien violó tu virginidad. Pronto pagará por su error, te aseguro que lejos no está. ¿En qué cuenta tendrá que pagar?
Et on va quitter le Nicaragua pour se tourner du côté de l'Europe. There is no alternative, le Brexit selon Theresa May.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Hier se tenait un sommet informel entre partenaires européens à Salzbourg à l'occasion de la prise de la présidence tournante de l'UE par l'Autriche. L'un des sujets majeurs, le Brexit, bien sûr. Et alors qu'on est dans la dernière ligne droite et que la date butoir avance à grands pas pour le moment, eh bien, on n'est pas d'accord.
Je crois que c'est la bonne proposition parce qu'elle maintient des relations commerciales sans friction. C'est le seul plan crédible, négociable, qui n'engendre aucune frontière en Irlande du Nord et qui respecte le vote du peuple britannique. Et si nous voulons parvenir à une conclusion positive, alors tout comme le Royaume-Uni a fait évoluer sa position, l'UE devra aussi faire évoluer sa position.
De manière très claire, les propositions faites en l'état aujourd'hui ne sont pas acceptables, tout particulièrement dans le domaine économique. Et en l'état, le plan Chequers ne saurait être un plan à prendre ou à laisser.
Voilà, on entendait Theresa May et Emmanuel Macron, bien sûr, hier. Theresa May pourrait-elle imposer sa version du Brexit ? There is no alternative, le Brexit selon Theresa May. Pauline Schnapper est notre invitée, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes professeur de civilisation britannique à l'Université Sorbonne Nouvelle. Emmanuel Saunier-Cassia est également avec nous. Vous êtes-vous professeur de droit de l'Union Européenne à l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Je commence avec vous, Marc, notre partenaire du monde. Vous avez vu, on a repris « There is no alternative », cette fameuse formule de Margaret Thatcher, qui est devenue un véritable slogan, qui d'une certaine manière est repris par Theresa May aujourd'hui. En début de semaine, elle a dit devant son parti « C'est mon plan ou rien », sauf qu'on voit bien que du côté européen, on n'en veut pas. Le blocage est plus fort que jamais en réalité.
Absolument. Alors, il y a une part de dramatisation, ce qui est normal dans une négociation aussi difficile quand elle arrive à la fin. Mais alors que depuis 2 ans, finalement, les milieux financiers ne s'inquiétaient pas trop, on en témoigne la relative stabilité de la livre, là, il commence à avoir la peur d'un Brexit sans accord, c'est-à-dire du saut dans le vide. Alors, les Européens, notamment la France et l'Allemagne, font bloc, ce qui est assez rare chez les Européens, au risque même d'humilier Theresa May, qui, elle-même, est toujours plus affaiblie dans son parti. Alors, il y aura un compromis possible. C'était l'idée d'un accord de libre-échange, mais cela implique la libre circulation. Et les plus durs au sein des Tories disent, finalement, c'est comme rester dans l'Union européenne sans les avantages. Alors la rupture totale, même si certains disent à terme, il y aura ce qui restera du Royaume-Uni sera une espèce de Singapour sur Tamise, et un paradis fiscal aux portes de l'Europe, implique par exemple une crise avec l'Irlande, avec déjà ce que la presse tabloïde appelle la ligne Macron, qui séparerait l'Irlande, la République d'Irlande, qui resterait toujours dans l'Union européenne, de l'Irlande du Nord. Alors, la situation est toujours plus imbriquée, et toujours plus compliquée, et il y a quand même quelque chose qui monte. On s'aperçoit que même si une majorité des Britanniques ne sont pas pour un nouveau référendum, le pourcentage de ceux dans les sondages qui disent qu'ils voudraient un nouveau référendum, finalement, monte pas mal.
On va y venir. Je crois que le cadre est un peu posé. On va commencer avec vous, Pauline Schnapper. Est-ce que Theresa May est sincère quand elle dit « c'est mon plan ou rien » ou est-ce que c'est juste une manière de mettre la pression et qu'en réalité, elle est disposée à le faire évoluer, Pauline Schnapper?
Je ne suis pas dans la tête de Theresa May. Ce qui est certain, c'est que sa stratégie ne peut reposer que sur cette soi-disant alternative. Elle n'a pas vraiment le choix. Parce qu'il ne faut pas oublier que la négociation, en réalité, Marc Zemmour y a déjà fait un peu allusion, elle se passe à deux niveaux. Il y a la négociation à Bruxelles qui est déjà très compliquée, mais il y a aussi la négociation interne, dans son propre parti, au Parlement. Et donc, pour essayer de limiter les forces centrifuges, disons, qui s'expriment dans son pays, elle dit c'est checkers ou rien, sous-entendu il n'y aura pas de deuxième référendum, ça c'est pour couper court au débat qui a lieu, et il n'y aura pas non plus de maintien dans le marché unique. Ce checkers, c'est pour elle un compromis entre les deux.
On va revenir évidemment sur ce plan de checkers, on va revenir sur cette frontière irlandaise qui est bien sûr au cœur des débats, mais Emmanuel Saunier-Cassia, du côté de l'Europe cette fois, est-ce que les Européens sont si unis que ce qu'ils veulent montrer? On voit quand même, ça et là, des divisions. Je pense par exemple à la Pologne qui visiblement se dit pas totalement opposé à l'idée d'un accord spécifique avec la Grande-Bretagne. Est-ce que les Européens sont si solidaires que ça?
Jusqu'à présent, les Européens l'ont été. Je dirais que ce qui s'est passé hier, avec la sortie d'Emmanuel Macron, n'est pas très favorable à une continuité du consensus européen. Je pense que la dramatisation à laquelle il a été fait référence tout à l'heure n'était pas souhaitable à ce stade des négociations. Maintenant, il faut bien qu'on distingue deux choses. Les discussions qui ont lieu actuellement concernent l'accord de retrait. Les discussions dont on parle le plus concernent l'accord des relations sur les relations futures avec l'Union européenne. Et ce sont deux choses différentes. Donc je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle maintenant.
Allez-y.
Alors, l'accord de retrait, c'est un accord qui est guidé par l'article 50 du traité de Lisbonne et qui impose un accord de l'Union européenne et du Royaume-Uni pour que le Royaume-Uni puisse sortir. Et cet accord-là suppose qu'il y ait une vue des relations futures avec l'accord avec l'État qui est sortant. Mais il n'y a pas nécessité de conclure l'accord
bien sûr,
sur les relations
bien sûr, bien
futures.
Sûr.
Et là, on est en train de faire une confusion des deux. C'est un gros problème dans les négociations actuelles, c'est qu'on est en train de faire une confusion entre les conditions de sortie et les conditions des relations futures avec le Royaume-Uni.
C'est pour ça qu'il y a ce risque
de la sortie sans accord,
du saut dans le vide. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'est pas obligé de penser tout de suite les relations futures avec le problème de qu'est-ce qui va se passer dans cette espèce d'interrègne entre les deux. Et qui, quand même, risque de créer une catastrophe. C'est-à-dire, est-ce que ça deviendrait simplement un pays extérieur? Est-ce qu'on est dans une stricte logique d'Organisation mondiale du commerce? Qu'est-ce qui se passe?
S'il y a no deal, c'est-à-dire si aucun accord de retrait est conclu, on saute effectivement dans le vide parce que le Royaume-Uni devient un pays tiers.
Absolument.
Donc il n'y a plus de lien avec
lequel il n'y a aucun accord.
Absolument aucun.
Même si ce n'est pas complètement le vide total, parce qu'on est en train justement de préparer cette option, mais on va y revenir. D'abord, regardons, avant de dire qu'il n'y aura pas d'accord, regardons les propositions qui sont sur la table. Celles qui sont sur la table, c'est le plan Chequers, qui est arrivé au début de l'été, que Londres a proposé à ses partenaires, Pauline Schnapper. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quand même, pour nos auditeurs, ce qu'il y a dans ce plan Chequers? Les modalités de sortie de la Grande-Bretagne de l'Union, c'est quoi?
Alors, non, c'est pas sur les modalités de sortie, précisément. Et là, je crois qu'on a fait une distinction très importante. Les modalités de sortie concernent trois points.
Les futures relations, de la Grande-Bretagne et l'Union européenne. Pardonnez-moi la confusion.
C'est le budget, combien le Royaume-Uni va continuer à payer.
Plus ou moins.
Ah non, Dominique Raab commence à dire s'il n'y a pas d'accord sur l'après, on ne paiera pas les 50 milliards. Donc, c'est Dominique, ce qu'on disait tout à l'heure.
On s'est mis d'accord pour la somme à payer. C'est suspendu, effectivement, bien sûr.
Il y a une menace implicite de ne pas payer les 50 milliards.
Bien sûr.
Donc, il y a ça, il y a les droits des citoyens et il y a la question irlandaise qui sont c'est les trois gros sujets de la sortie. Et puis, ce dont on parle là, effectivement, c'est après. Et donc, les propositions de Chequers, c'est sur l'après et c'est en deux mots. Tout simplement, on reste dans le marché unique pour les biens et marchandises. Mais ni pour les services, ni pour les capitaux, ni surtout pour la libre circulation des personnes.
Qui contredit les piliers
et
même.
Voilà. Donc c'est inacceptable pour les Européens. En tout cas, sur le plan juridique, je ne suis pas sûre, mais politiquement, ils ont décrété depuis le début, Michel Barnier ne cesse de le répéter, que les fameuses quatre libertés de circulation ne pouvaient pas être divisées. Et donc, on ne peut pas avoir libre circulation pour les biens et marchandises. Maintenant,
vous êtes professeur de droit, Emmanuel Saunier-Cassia. Est-ce que effectivement ce plan de Shakers, il menace l'intégrité du marché unique?
Alors oui et non. En fait, dire que les quatre libertés soient désolidarisées dans un accord et que c'est inacceptable pour l'Union européenne, c'est faux. Parce qu'en réalité, l'Union européenne a plein d'accords d'association conclus avec des pays tiers dans lesquels les quatre libertés sont scindées, dans lesquels il n'y a que de la liberté de circulation des marchandises et des services ou de la liberté des marchandises. Bon, avec la Turquie, par exemple, tout simplement. Donc, la possibilité de conclure avec un État tiers que sera le Royaume-Uni, une fois son retrait acquis, est tout à fait possible dans un accord de libre-échange uniquement sur les marchandises. Mmh. Ce qui pose problème aux Européens, en réalité, c'est pas ça. Ça, c'est ce qui est annoncé politiquement. Ce sont les conditions qui sont prévues dans l'accord de Shakers. C'est-à-dire qu'il y a un partenariat douanier qui a été envisagé par les conseillers de Madame May, distinguant ou découpant, je ne sais pas comment le dire, le contrôle qui sera fait aux douanes. C'est-à-dire qu'elle propose une liberté de circulation des marchandises, comme Pauline Schnapper l'a dit, qui d'ailleurs serait applicable aussi, ce qui est assez amusant, aux produits agricoles. Mais derrière, il y a un partenariat douanier pour permettre la liberté de circulation. Et cette liberté de circulation, elle suppose des contrôles pour les marchandises qui vont venir d'autres pays au Royaume-Uni. Et donc le Royaume-Uni a proposé de faire un double contrôle, un pour elle-même en quelque sorte, enfin pour lui-même, pour le Royaume-Uni lui-même, et un pour l'Union européenne, pour simplifier le passage aux douanes. Mais ça c'est absolument inacceptable du point de vue du droit de l'Union européenne. Les institutions européennes ne peuvent pas accepter qu'un État tiers, enfin que soit externalisé le contrôle à ses frontières.
Mais attendez, précisément, c'était pas la proposition de Michel Barnier qui avait dit qu'il était prêt à laisser les douaniers britanniques opérer à la place des Européens ?
Non, Michel Barnier n'a pas proposé cela du tout. Michel Barnier propose qu'il y ait un accord de partenariat sur la liberté de circulation des marchandises, mais avec un contrôle qui se fasse de part et d'autre. Le droit de l'Union européenne ne peut pas, il ne peut pas être envisagé que le droit de l'Union européenne délègue une compétence à un pays qui n'est pas l'un de ses États membres. C'est inimaginable.
Pauline Schnapper, cette question irlandaise qui est vraiment le nœud du problème, Theresa May a expliqué hier qu'elle était prête, qu'elle allait présenter de nouvelles propositions sur la frontière irlandaise, sachant qu'elle a déjà précisé sa priorité, qui était de veiller que l'Irlande du Nord ne se détache pas du reste du Royaume-Uni. Est-ce qu'on a une idée de ce que pourraient être ces nouvelles propositions ?
C'est pas très clair, non. Ce sont des, a priori, ce que j'ai lu dans la presse britannique, j'en sais pas plus depuis hier, ce seraient des propositions techniques de l'ordre des lieux de contrôle, effectivement, des marchandises qui y passent. Mais le problème de fond, à mon avis, d'après ce que j'ai vu, demeurait total. C'est-à-dire, l'idée, c'est ce problème que la frontière entre le nord et le sud de l'Irlande deviendra à partir du 29 mars 2019 la frontière de l'Union européenne. Or, depuis 20 ans, depuis les accords de paix en Irlande du Nord, il n'y a plus de frontière. Du tout. Je veux dire, on ne se rend même pas compte qu'on passe du nord au sud pour l'instant. Donc, pas de frontière, pas de contrôle sur les personnes, pas de contrôle non plus, bien sûr, sur les marchandises qui circulent absolument librement entre les deux. Et donc, il faut bien qu'à un moment donné ou à un autre, soit l'Irlande du Nord reste dans le marché commun et il continue à plus avoir besoin de contrôle à la douane.
Soit on
est dans cette situation où soit l'Irlande du Nord reste en Europe, de fait, soit on met une frontière entre le Nord et le Sud. Et on ne sort pas de ce dilemme.
Juste un petit point là-dessus, la proposition de Michel Barnier du backstop, c'est-à-dire d'une espèce de régime intermédiaire, en attendant qu'on trouve une solution définitive, ça ne peut pas être la mort d'un compromis.
Il faut expliquer ce que c'est ce fameux backstop, le filet de sécurité.
C'est ce dont les Nord-Irlandais en particulier ne veulent pas du tout, c'est l'idée que l'Irlande du Nord reste dans le marché commun, dans un premier temps, le temps qu'on trouve une autre solution.
Les Nord-Irlandais avec une partie d'entre eux.
Absolument. Les Nord-Irlandais dont Theresa May a besoin pour conserver sa majorité, c'est-à-dire les unionistes.
Les unionistes durs.
Absolument. Et la majorité de la population, elle serait plutôt contente, effectivement. Mais c'est inacceptable pour Theresa May.
Emmanuela.
C'est inacceptable pour Theresa May parce qu'elle ne pourrait pas faire passer son accord au Parlement parce qu'elle a besoin du soutien du DUP.
Des 10 du DUP.
Qui sont les 10 nouveaux parlementaires dans sa nouvelle majorité assez instable.
Et alors, Pauline Schnapper, justement, vous le disiez, c'est les accords de Belfast de 98 étaient parvenus un peu à régler ce conflit irlandais, même si tout n'était pas réglé. En tout cas, on avait réussi à mettre tout ça un peu en veille, à dépolitisé d'une certaine manière ce sujet, et en particulier le sujet d'une possible réunification. Est-ce que vous pensez que finalement le Brexit pourrait accélérer un mouvement un début de processus de réunification? C'est le sujet dont tout le monde parle hein, en Irlande et des deux côtés de la frontière.
Absolument, tout est ouvert. Alors à court terme, je n'y crois pas beaucoup. Mais si la crise continue et surtout si les évolutions démographiques se poursuivent, c'est-à-dire que la minorité catholique du nord de l'Irlande est en train de devenir une majorité ou va le devenir dans les décennies qui viennent, il n'est pas du tout impossible qu'il y ait une majorité en Irlande du Nord favorable à cette réunification. Ça dépendra de ça, de ce qui se passe en Irlande du Nord.
On a des sondages d'opinion jusqu'ici ou pas ?
Alors, on a des sondages sur les opinions sur le Brexit. Les Irlandais
du Nord. Sur la réunification ?
Sur la réunification, je n'ai pas de chiffres récents. En gros, si vous voulez, les catholiques qui sont plutôt favorables et les protestants plutôt opposés, mais il n'est pas impossible que ce rapport de force évolue encore une fois si le Royaume-Uni, si l'Irlande du Nord est sortie contre sa volonté de l'Union européenne.
Place à notre partenariat avec Cartooning for Peace, cette association de dessinateurs du monde entier. Le vendredi, on sélectionne un dessin en fonction de notre actualité du jour qu'on diffuse sur les réseaux sociaux, sur le site de France Culture. C'est notre bulle Cartooning du vendredi.
Il fait le clown.
Mais on a été créé pour faire rire les gens, mon vieux.
Assis.
Quand le dessin éclaire l'actualité. Bonjour Mélanie Chalandon.
Bonjour Florian. Bonjour.
Alors, vous
à
avez
tous.
Choisi quel dessin aujourd'hui? Je le vois, je l'ai sous les yeux.
Eh bien, c'est un dessin signé Joep Bertrams, un caricaturiste néerlandais. Il est paru cette semaine dans De Groenen Amsterdammer. C'est un journal hebdomadaire pour lequel travaille le dessinateur. Et donc, c'est une caricature, hein, caricature de la chef du gouvernement britannique, Theresa May. Et pour être précis, c'est même une caricature, enfin une mise en image de ses dernières déclarations sur le Brexit. Le dessin est intitulé « My soup or no soup », autrement dit, vous avez plutôt intérêt à accepter ce deal qu'on vous propose, car il n'y aura rien d'autre à manger. Sauf que la soupe en question, eh bien, a l'air tout sauf appétissante. Hein. C'est un immonde liquide verdâtre et rougeau qui déborde de la gamelle qu'elle tient dans ses bras. Il est difficile d'ailleurs d'identifier les ingrédients à la base de cette mixture. On dirait plutôt une fuite d'égout.
Elle a de la,
potage,
a de la soupe jusqu'à la taille. Hein.
Et il y en a partout, effectivement. Il y en a partout, c'est une véritable marée. Elle en a jusqu'aux hanches, jusqu'à la taille. Ce qui ne semble pas la perturber le moins du monde, hein, par ailleurs, avec son tablier et sa louche. Ce n'est d'ailleurs plus vraiment une dirigeante politique que nous avons représentée là, mais une cantinière. De celle, vous vous souvenez, hein, à l'école, qu'il ne s'agissait pas de contrarier en critiquant le contenu de l'assiette. Et de fait, il y a de l'autorité, de la détermination, indéniablement, qui se dégage de ce personnage. Et c'est un choix intéressant de la part du dessinateur Bertrams, car d'ordinaire, dans les caricatures, dans les commentaires, on souligne plutôt volontiers les fragilités de Theresa May, ses difficultés à s'imposer face à ses partenaires et aussi bien face à sa propre famille politique. Tiens, d'ailleurs, on aperçoit une chevelure blonde dans un coin du dessin. C'est Boris Johnson, certainement, son adversaire au sein du Parti conservateur et farouche défenseur, lui, d'un Brexit sans concession. D'ailleurs, on le devine hein, plus qu'on ne le voit. Il est totalement immergé dans cette marée de détritus, pardon, de la soupe de Theresa May. Alors faut-il y voir l'idée qu'il serait lui-même désormais dépassé, noyé par les complexités du Brexit? De fait, Boris Johnson semble davantage en embuscade, hein, caché et non noyé, avec son périscope tel un sous-marin dans la marée anglaise.
Alors, Pauline Schnapper, dépassé ou en embuscade, ce Boris Johnson? On la sait très fragile, il y a de plus en plus de frondeurs. Il y aura un congrès des conservateurs dans quelques jours. L'avenir de Theresa May?
Il y a malin qui peut le donner. On la donne pour partante depuis 2 ans.
Mais elle-même a arrêté après le Brexit.
Non, elle a rien annoncé du tout. Ça a été annoncé sur des
place.
Antennes de Radio France, mais non, elle a rien annoncé du tout. Je sais pas d'où vient cette rumeur, mais en tout cas, il y a rien dans la presse britannique et inutile de vous dire que ça ferait les grands titres.
Bon.
Donc non, mais le fait même qu'il y ait cette rumeur est en soi une indication de sa fragilité et du fait qu'on s'attend tellement à ce que ça arrive qu'on
finit. Mais ça vous paraît possible?
Ah, c'est tout à fait possible, parce que ce qui pourrait très bien se passer, même, alors, un, il pourrait ne pas y avoir d'accord, et ça serait quand même catastrophique pour elle, ça la mettrait vraiment en grande difficulté. Deux, il pourrait y avoir un accord en octobre ou en novembre, mais il y a très peu de chances que le Parlement, qui est totalement divisé sur ce qu'il veut, le vote.
Et donc, dans les deux cas, la position de Theresa May comme Premier ministre est quand même extrêmement compromise. Elle peut encore s'en sortir, hein, elle l'a fait jusqu'à maintenant. Mais enfin, elle est vraiment en embuscade. Ce qui la sauve un petit peu, c'est que personne ne veut vraiment de Boris Johnson et que personne ne veut vraiment de Jeremy Corbyn.
There is no alternative, mais là du coup
mais ça, au sens négatif, ouais, dans les deux grands partis. Donc c'est peut-être ce qui lui permet de se maintenir, mais pour combien de temps?
Emmanuel Saunier-Cassia sur ce dessin.
Oui, alors vraiment, il est magnifique, merci. Je ne l'avais pas encore vu. Boris Johnson en embuscade, sans doute. Enfin, ça fait 2 ans maintenant qu'il est en embuscade, puisqu'on lui avait quand même proposé le poste de Premier ministre, il l'a refusé, se doutant de la marée que ça entraînerait. Et peut-être plus dangereux que lui, et on le voit peut-être pas, mais il est certainement plus dangereux. C'est un parlementaire qui s'appelle Jacob Rees-Mogg et qui, à la Chambre, est déterminant dans la coalition des mécontents contre Theresa May et qui veulent faire tomber Theresa May. Et je pense que Rees-Mogg est bien plus dangereux que la crinière blonde de Boris Johnson.
C'est Rees-Mogg le principal danger pour Theresa May, Pauline Schnapper ?
Ils sont alliés, tous les deux. Pour l'instant, Rees-Mogg dit que Boris Johnson est formidable et ferait un excellent Premier ministre. Donc il se met en arrière-plan, mais ça ne veut pas dire qu'il ne se présenterait pas. Boris Johnson, il y a 2 ans, on ne lui a pas proposé d'être Premier ministre. Mais il y a eu une élection.
Il était en position
pour se présenter au leadership du parti. Et il ne l'a pas fait. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
Oui, mais enfin, ce qui conduit à la même chose en réalité.
Merci beaucoup en tout cas Mélanie Chalandon pour ce dessin qu'on va mettre immédiatement sur les réseaux sociaux, les Twitter, les Facebook, le site de France Culture, etc. Sur les internets, comme on dit. Voilà, exactement. Alors, vous le disiez, Pauline Schnapper, d'abord, on ne sait pas s'il y aura un accord. Et puis, quand bien même il y aura un accord, il y a en tout cas une forte probabilité pour que le Parlement le rejette. Alors, mettons-nous maintenant dans le scénario où il n'y a pas d'accord, précisément. Ça fait plusieurs fois qu'on a signes, des messages venant du gouvernement britannique qui a l'air visiblement de se préparer à cette possibilité. Il y avait une première vague de notes un peu explicatives, de notes techniques pour aider les entreprises en cas de Brexit sans accord. Il y a eu là, ces derniers jours, ces dernières semaines, une nouvelle vague de nouvelles explications pour expliquer aux gens comment on fait au niveau des passeports, des permis de conduire, etc. etc. Donc des choses extrêmement concrètes. Est-ce qu'on est en train de réaliser du côté britannique qu'on n'aura pas d'accord ? Et est-ce qu'on est en train, en réalité, de se préparer à cette option ?
Alors, oui, il y a un aspect de préparation administrative, j'allais dire, et économique pour les entreprises, mais il y a aussi un aspect politique dans ces publications. Il s'agit de montrer, sans en avoir l'air, combien ce serait une catastrophe, et donc de mettre la pression notamment sur les amis de Rees-Mogg et les gens qui refusent l'accord de Chequers pour leur dire si vous ne votez pas un éventuel accord, on se retrouvera dans cette situation-là qui serait bien pire, ce qui est la réalité sur le plan pratique et économique. Donc il y a à la fois une dimension pratique, technique, administrative dans ces publications et dans tous ces débats qu'on a depuis quelques semaines, qu'on aurait dû avoir depuis bien plus longtemps évidemment. Mais il s'agit aussi de mettre la pression, encore une fois bien tardive, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au départ, Theresa May disait « il vaut mieux pas d'accord qu'un mauvais accord ». C'est un mensonge absolu. Il n'y a rien de pire pour les Britanniques que pas d'accord. Et qu'est-ce que ça veut dire un mauvais accord ? Et donc, ça n'est que depuis quelques semaines, finalement, que le gouvernement dit « au fait, j'ai oublié de vous dire, mais pas d'accord, c'est vraiment très mauvais. » C'est vraiment une mauvaise nouvelle.
Marc Sémo.
Justement, il y a cette part de dramatisation, dans la dernière droite, mais est-ce que, au-delà des effets à court terme, qui seront évidemment assez mauvais pour l'économie britannique, est-ce qu'à long terme, avec accord ou sans accord, il n'y a pas cette possibilité pour l'Angleterre, je dis exprès l'Angleterre, de devenir ce paradis fiscal. C'est la thèse du livre de Mark Roche, qui connaît bien le Royaume-Uni.
Qui vient de publier un ouvrage intitulé « Le Brexit va réussir hein, » pour les auditeurs.
Et qui, en plus, n'est pas pro-Brexit lui-même, mais qui dit voilà, il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent faire que, finalement, l'Angleterre, de nouveau, une fois même l'Écosse partie, etc., aurait des cartes à jouer et pourrait finalement, bien s'en sortir.
Oui, Pauline Schnapper et ensuite Emmanuel Saunier-Cassia.
C'est l'argument des ultralibéraux à la Johnson. Pas du tout le clan Farage, UKIP, anti-immigration, etc. Mais la partie ultralibérale de la campagne du Brexit. C'est-à-dire ce que vous avez appelé, oui, Singapour sur Tamise. Ce qui veut dire une économie totalement dérégulée, ouverte. mais où donc qui attirerait les capitaux et les entreprises parce que ça ne coûterait rien d'investir et on se débarrasserait enfin de toutes ces réglementations sur l'environnement, sur les droits sociaux, etc. Ce qu'il y a, c'est que cette vision-là, alors effectivement sur le papier, elle est, on peut tout à fait l'envisager et imaginer après tout que ça puisse être un succès sur le plan économique. Le problème, c'est que c'est complètement décalé avec ce que pense l'opinion publique britannique aujourd'hui. Personne ne veut de ça, à part, je vous dis, cette frange ultra-libérale des députés conservateurs. L'opinion publique est remontée à bloc contre l'austérité, contre les réductions des dépenses publiques qu'il y a eu depuis 2010. L'idée qu'on va faire un accord de libre-échange avec les Américains, importer les poulets au chlore, faire entrer les boîtes pharmaceutiques américaines dans le service de santé britannique, enfin toutes les choses dont rêvent ces libéraux, sont absolument inacceptables par l'électorat britannique. Donc ça me paraît, moi, peu vraisemblable.
Emmanuel Saunier-Cassia, est-ce que vous croyez à ce scénario du Singapour sur Tamise?
Je ne suis pas économiste, donc je n'oserais pas me prononcer avec certitude, mais de toute façon, il y aura un décalage. Et le décalage, pour que ça devienne un succès, je n'ai pas lu l'ouvrage in extenso, mais que les bons extraits dans la presse, c'est un décalage à 10, 20 ans au mieux. Donc, est-ce que les Britanniques, comme Pauline Schnapper vient de le dire, vont accepter une austérité à court terme et à moyen terme? C'est absolument inenvisageable. Enfin,
Et je reviens sur ma question de tout à l'heure. Est-ce que les Britanniques ont les moyens, là, de rassembler les conditions d'une sortie sans accord? Je veux dire, est-ce qu'on a le temps, très concrètement, de s'organiser pour, précisément, mettre en place des nouveaux dispositifs de coopération qui assurent une rupture pas trop brutale, j'allais dire? Vous qui êtes juriste.
Ah non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps avec l'Union européenne et on n'a pas le temps avec les États qui sont actuellement tiers.
Non, je ne parle pas avec l'Union européenne, je parle chez les Britanniques. Est-ce que les Britanniques peuvent mettre en place les choses de sorte à ce que...
Non, ils ne sont pas prêts. Sur le plan douanier, sur le plan des accords commerciaux qu'il faudrait reconstruire avec l'extérieur, ils ne sont pas prêts. L'Union européenne a conclu, je crois, 750 accords auxquels donc est lié le Royaume-Uni de par son appartenance à l'Union européenne avec des États tiers. Comment le Royaume-Uni va pouvoir faire en moins de 10 ans, la moitié de ce qui a été fait en 50 ans? Enfin, c'est pas possible.
Marc, c'est beau.
Non, donc il faut en somme stocker le fromage. Comme
comme Dominique Raab l'a annoncé en début d'été en parlant des stocks de nourriture. Oui. Et de médicaments, exactement.
Pauline Schnapper, je reviens sur l'idée de Singapour sur Tamise, proposée par Marc Semo, présentée effectivement par Marc Roche, qui est l'ancien correspondant du Monde à Londres dans son nouvel ouvrage. Vous dites, l'opinion britannique n'en veut pas, mais d'une certaine manière, ça c'est presque un retour aux fondamentaux, c'est-à-dire les cercles magiques de Churchill, avec la relation avec les États-Unis, le Commonwealth et puis l'Europe. Ce serait un retour assez naturel à ce qu'on a toujours, à la manière dont on a toujours pensé le pays vis-à-vis du reste du monde.
Oui, sur le plan diplomatique stratégique, oui. Mais là, on parlait d'économie. On parlait de faire cette économie ultra ouverte, dérégulée, qui paradis fiscal, si vous voulez, aux portes de l'Europe. Ça, c'est pas la même chose que la grande nostalgie largement partagée, ça je vous l'accorde bien volontiers, du Commonwealth, des grands accords avec les États-Unis, et puis on garde, oui, un peu de relations avec l'Europe, ce qui, après tout, correspondrait à une espèce de vieille tradition. Ce sont deux choses que je distingue.
Oui, cet imaginaire pourrait être suffisamment fort, en tout cas fort au point d'envisager effectivement cette rupture brutale et le tournant vers cette forme de libéralisme débridé.
Je n'y crois pas beaucoup. Les travaillistes y sont totalement opposés et même les conservateurs, à mon avis, sont très divisés sur cette question.
Marc Semo et puis Emmanuel Saunier-Cassia.
Est-ce que cette idée d'un nouveau référendum est possible? Parce que c'est quand même, ça monte dans l'opinion. Alors, c'est pas majoritaire, c'est un tiers seulement pour le moment, apparemment, des électeurs britanniques, mais est-ce que c'est possible? Parce que finalement.
Juridiquement, rien ne s'y oppose.
Voilà.
Maintenant, politiquement et concrètement, ça va être très difficile à organiser d'ici le 29 mars 2019. Il y a deux scénarios possibles, en fait. Alors, tout va dépendre aussi du congrès des conservateurs la semaine prochaine ou enfin à la fin du mois. Mais si on arrive à un pseudo-accord en octobre et qu'on arrive à organiser le fameux Conseil européen extraordinaire d'urgence en novembre pour mettre les choses sur pied, à ce moment-là, après, il y a un vote au Parlement britannique, puis après dans les autres parlements et au Parlement européen, un vote au Parlement britannique pour décider si ça convient ou si ça convient pas. Si ça ne convient pas au Parlement britannique, on peut tout à fait envisager soit un branle-bas de combat politique avec une réélection, soit au sein du Parti conservateur, le vote d'une motion de défense, voire l'arrivée de Jeremy Corbyn au pouvoir, c'est pas impossible. Soit on peut aussi tout à fait envisager que le peuple se prononce à nouveau parce que soit Jeremy Corbyn déciderait de convoquer un nouveau référendum pour essayer de filer le bébé au peuple pour ne pas avoir à décider lui-même. Tout est envisageable. Donc le second référendum, juridiquement c'est possible et politiquement ça n'est pas impossible. Concrètement, ça va être compliqué.
Parce que c'était à chaque fois des référendums consultatifs.
Ah, c'est un référendum.
Le premier, celui de sortie du Brexit,
celui de 1975, puisqu'il y en a eu un déjà, comme celui de 2016, sont des référendums consultatifs. Ça, juridiquement, c'est un.
Pauline Schnapper, est-ce que ça vous paraît politiquement possible? C'est vrai que ça monte.
Ça monte, c'est incontestable. Il y a de plus en plus de gens. Alors, sont-ils des gens qui ont une grande influence? C'est une autre question. Enfin, disons qu'il y a beaucoup, de plus en plus de gens qui s'expriment en faveur d'un second référendum, mais il y a quand même une série de problèmes, outre ce que vous venez déjà de mentionner. Il y a quand même le fait que ni la première ministre actuelle, ni le leader du parti d'opposition travailliste n'en veulent. Donc, si c'est l'un ou si c'est l'autre qui est au pouvoir, il n'y en aura pas. Premier problème. Le second qui préoccupe beaucoup les hommes politiques et les observateurs au Royaume-Uni en ce moment, c'est le fait que on a eu un premier référendum à 52-48 pour sortir. Si on organisait un second référendum dans 6 mois et qu'on a 52-48 pour rester, on n'aura rien réglé, puisqu'il ne sera pas considéré comme plus légitime que le premier. Pourquoi le second serait plus acceptable
si
que le premier?
Et si c'est 53-47?
Il faudrait que ce soit 70-30 pour qu'il y ait vraiment pas aucune, pour que ça ne pose aucun problème de légitimité démocratique.
On a eu des précédents en matière de re-référendum.
Oui, mais pas au Royaume-Uni.
Vous pensez à quoi?
À l'Irlande, la République d'Irlande. Ah oui. On a fait revoter à deux reprises, à la fois pour le traité Nice et pour le traité de Lisbonne. Et à chaque fois, il y a eu un écart de 10 points en l'espace d'un an. Enfin, 10 points pour le traité de Nice et 14, je crois, pour le traité de Lisbonne en l'espace d'un an. Ouais. Tout est possible.
Et l'hypothèse d'un Jeremy Corbyn qui tirerait son épingle du jeu, qui profiterait d'un rejet du Parlement, de l'accord et d'une chute de Theresa May, Pauline Schnapper, vous y croyez?
Pour l'instant, Jeremy Corbyn dit « Moi, je veux des nouvelles élections, je veux devenir Premier ministre, je ne veux pas revenir sur le référendum qui a eu lieu il y a 2 ans ». Cela dit, il y a une forte pression sur lui au sein de son parti. C'est une position qui est plutôt minoritaire au sein du Parti travailliste. Donc, il y a un rapport de force. Honnêtement, je ne sais pas. Got no chapel, cause the chapel is a house. Black horse, cattle grid, ivy dormouse. Turquoise shed door, give way grid. Bid first for gables, back halfway in. Gravel drive, snow drops, oak tree barrel. Shallow quarry pit, flow river tow. Parish meetings called by chair and rock break. Sandstone, limestone.
Merci beaucoup à tous nos invités. Merci beaucoup, Pauline Schnapper. Je rappelle que vous êtes professeure de civilisation britannique à l'université Sorbonne Nouvelle. Et je rappelle votre ouvrage, Le Royaume-Uni doit-il sortir de l'Union Européenne? C'est en fait un vieil ouvrage de 2014, mais en réalité, la question est toujours là. Merci beaucoup également, Emmanuel Saunier-Cassia. Je rappellerai, vous concernant, un ouvrage à paraître. Il faut attendre encore quelques jours, mais le Brexit et l'avenir de l'Europe. Quelques mois, vous dites?
Oui, plutôt.
Plutôt quelques mois. Bon, voilà, ce sera un peu retardé. Merci en tout cas infiniment et un grand merci également à Marc Semo, notre partenaire du Monde le vendredi. Avec ce titre de Darren Eman qui parle de ce charme des villages anglais qu'on se quitte pour retrouver Brice Couturier, son tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Dernière chronique consacrée aux leçons à tirer 10 ans après de la faillite de la banque américaine Lehman Brothers. Un point de vue plutôt pessimiste pour commencer.
Oui, celui de Richard Kozul Wright, un des principaux économistes des Nations Unies, revient lui aussi sur cette faillite de Lehman Brothers et ce qui s'en est suivi. Une méfiance généralisée dans le secteur financier et un gel du crédit interbancaire qui aurait pu provoquer une faillite mondiale. Rétrospectivement, dit-il, la complaisance dont on a fait preuve face au déroulement de la crise a été déraisonnable car les banques ont été renflouées par des quantités énormes d'argent public dont une partie a été détournée par les dirigeants de ces mêmes banques à leur propre profit. Alors on nous dit aujourd'hui, continue-t-il, que le secteur est plus simple, contrôlé. En réalité, le shadow banking, la finance de l'ombre, a pris le relais et son poids est démesuré. Kozul Wright estime ce secteur, tenez-vous bien, à 160 000 milliards de dollars, soit 2 fois la taille de l'économie mondiale. Quant aux milliers de milliards injectés dans l'économie par les banques centrales, elles ont alimenté des hausses extravagantes sur un marché boursier dopé par les fusions-acquisitions et les rachats d'actions propres. Cependant, que l'économie réelle, je cite, bafouille. Les décideurs politiques, surtout aux États-Unis, veulent se persuader que cette euphorie boursière, en se répercutant sur le moral des ménages, va les pousser à consommer davantage. Ils se trompent. Les Américains réalisent que cette valorisation ne bénéficie qu'à une petite minorité, d'où le risque d'une perte de confiance dans le système. Idem dans un grand nombre de pays émergents. Les bourses flambent tandis que les salaires stagnent. D'ailleurs, parmi les émergents, il n'y a que la Chine et l'Inde qui émergent vraiment. Les autres connaissent de sérieuses difficultés économiques et pour eux, le pire est à venir. Car les capitaux investis chez eux risquent de fuir vers les États-Unis le jour où la Fed remontera ses taux d'intérêt. Acheter des bons du Trésor apparaîtra plus sûr. Le problème de fond, poursuit Kozul Wright, n'est pas la croissance qui est tiède, mais le fait qu'elle repose sur une montagne de dettes. Le volume de la dette mondiale a doublé en une décennie. Elle représente aujourd'hui 3 années de PIB mondial et la part des émergents dans cette énorme bulle est passée de 7 à 26% en 10 ans.
Et Brice, après tout, est-ce qu'il faut commémorer ce 10e anniversaire de la crise ?
C'est la question que pose Harold James, un historien de Princeton. Je le cite. Cette année, nous avons célébré le 50e anniversaire de l'écrasement du printemps de Prague par l'armée rouge, le 100e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale et le 200e anniversaire de la naissance de Karl Marx. Alors, faut-il vraiment se soucier du 10e anniversaire de la faillite de Lehman Brothers ? Sur le déroulement de la crise, poursuit Harold James, sont entrés en concurrence 3 grands récits. Le premier était basé sur les idées émises par Charles Kindleberger dans son livre de 1978 qui était titré « Manias, Panics and Crashes », traduit en français sous le titre beaucoup moins sexy « Histoire mondiale de la spéculation financière ». C'est le narratif qui mettait en garde contre le fameux « fondamentalisme de marché ». Le deuxième affirme que les décideurs politiques avertis par le précédent de 1929 ont su mettre en œuvre les procédures qui ont permis d'empêcher la contagion. Ils ont simplement remplacé les dettes privées, dont une partie importante était devenue douteuse, par de la dette publique. Il suffisait d'y penser et tout roule à présent. Le troisième narratif ne partage ni le pessimisme du premier ni l'optimisme du deuxième. Et c'est celui auquel Harold James lui-même adhère. La cause de la crise n'était pas l'irrégularité des marchés financiers, mais leur opacité. Pour donner un exemple, Lehman Brothers elle-même abritait en réalité, figurez-vous, 7000 entités distinctes opérant dans une 40aine de pays différents. Ensuite, il y a eu la tendance des banques à se débarrasser d'un certain nombre de produits financiers qu'elles avaient elles-mêmes créés avant qu'ils ne deviennent toxiques. Plus généralement, la volatilité générale, le court-termisme, l'enfermement des acteurs dans des bulles cognitives, tout cela s'origine dans ce qu'a produit la révolution récente du smartphone. Je cite Harold James. Il ne faut donc pas s'étonner que cela produise une culture de la diabolisation, de l'agression, du harcèlement et de la manipulation. Les nouveaux modes de penser et de communiquer débouchent sur le même éthos commun à la technologie et à la finance, qui pourrait s'énoncer ainsi : détruisez la continuité, glorifiez la disruption.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. On se retrouve la semaine prochaine, cher Brice, bon week-end. Dans un très court instant, c'est Olivia Gesbert et La Grande Table.